A du vent, le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima. 5 ans après, nous avons vu dans la première partie de l'émission que la centrale est toujours en cours de refroidissement, que la zone autour de la centrale est loin d'être décontaminée et que cette catastrophe, comme celle de Tchernobyl, finalement va laisser des traces encore des dizaines d'années. Un constat inquiétant pour les autres pays qui ont fait le choix de l'énergie nucléaire, comme la France notamment, qui abrite tout de même 58 réacteurs. Alors quel est l'avenir du nucléaire? Nous en parlons avec nos invités. Thierry Charles, directeur de la sûreté de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Bernard Laponche, ingénieur, fondateur et membre de l'association Global Chance, Yuki Takahata, fondatrice de Yosomono Net, le réseau international des ressortissants japonais contre le nucléaire, et par téléphone, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire et chef du laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, Arnaud Vollerin, correspondant du journal Libération au Japon, et Paul Jobin, maître de conférence à l'université de Paris Diderot et actuellement basé à l'académie Sinica de Taïwan. Alors, Bruno Charéron, cette catastrophe de Fukushima, elle a changé quand même les normes de sécurité dans les centrales dans le monde?
Je dirais heureusement. Heureusement que les industriels se préparent à faire évoluer les normes de sécurité. Parce que ce qui s'est passé à Fukushima, c'est vraiment profondément choquant de voir qu'on a laissé fonctionner des centrales nucléaires avec un tel risque de sismicité et avec un tel risque par rapport au tsunami. Maintenant, quels que soient les efforts qui sont faits pour augmenter le niveau de sûreté des installations, le risque zéro n'existe pas. Et de ce point de vue, il est là aussi choquant de voir que les montants des indemnisations qui sont prévus par les exploitants de centrales nucléaires et par les États nucléarisés sont dérisoires par rapport au coût réel des catastrophes. Puisque les derniers protocoles prévoyaient un montant d'indemnisation de 1,5 milliard d'euros pour une catastrophe, or certaines évaluations indiquent que le coût d'une catastrophe nucléaire peut être supérieur à 1 000 milliards d'euros. Donc une vraie question qui se pose par rapport à ça, c'est exploiter des centrales nucléaires sans avoir correctement prévu les indemnisations en cas de catastrophe nucléaire, est-ce bien acceptable?
Alors Bernard Laponche, est-ce que c'est suffisant de savoir qu'au fur et à mesure qu'il y a des accidents, les normes de sécurité augmentent? Est-ce que c'est suffisant pour nous rassurer? Est-ce qu'on peut par exemple prendre un Fukushima en France?
Ce n'est pas moi qui le dis. Depuis plusieurs années, l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'un accident grave était possible en France. Ce qui était quand même un changement de déclaration, puisque pendant très longtemps, j'ai commencé dans le nucléaire en 61, je connais assez bien les évolutions, l'accident était impossible parce que d'une probabilité tellement faible qu'on n'en tenait pas compte. Alors ça a évolué puisqu'il y a eu des accidents, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, et il faut noter que Three Mile Island, c'est exactement le modèle des réacteurs français.
Alors, Three Mile Island, c'était donc le premier accident aux
États-Unis. C'était en 1979 aux États-Unis, où il y a eu une perte de refroidissement, la fusion du cœur, mais ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu d'explosion qui envoie de la radioactivité à l'extérieur. Bon, Tchernobyl, c'est un réacteur de nature très différente, mais il y a eu explosion et très grande quantité de radioactivité à l'extérieur. Et Fukushima, c'est aussi un réacteur à eau, perte un peu différente des nôtres, mais de même famille du point de vue des risques, perte de refroidissement, explosion et quantité de radioactivité. Donc cet accident qui est lié en particulier à ce type de réacteur, mais on peut trouver qui représente à peu près les 2/3 des réacteurs au monde, hein, les réacteurs à eau et à uranium enrichi, peut se produire en France et peut se produire en Europe. Et donc la question qui se pose, dans la mesure où on admet qu'il peut se produire, d'un côté, qu'en regard de cette possibilité, on voit qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe nucléaire, qu'on connaît donc en particulier avec Fukushima, qui est vraiment le même type de réacteur, on peut se poser la question sur faut-il ou non continuer? Puisque là, il y a une espèce d'assimilation de nos jours assez dangereuse. On fait comme si les accidents nucléaires étaient un peu des accidents, comme des catastrophes naturelles. Bon, un tremblement de terre, un typhon, on ne peut pas les empêcher. Le nucléaire est là, donc il faut faire son possible pour que ce soit le moins dangereux possible. Mais dans la mesure où l'accident est possible, on peut se dire, arrêtons la cause. Ce qui n'est pas très handicapant puisqu'au niveau mondial, la production d'électricité d'origine nucléaire représente 11% de la production totale d'électricité, c'est-à-dire 2-3% de la consommation finale d'énergie. Donc on peut s'en passer. Voilà.
Alors Thierry Charles, récemment, Pierre Franchevel, président de l'autorité française de sûreté nucléaire, a déploré dans une interview donnée au journal Libération le manque de prise de conscience justement des risques en reconnaissant, je cite, « nous n'avons pas obtenu les moyens supplémentaires nécessaires pour assurer pleinement notre tâche ». Là on parle de la France, mais enfin bon, moi par exemple je vis en France avec mon mari, mes enfants, c'est inquiétant.
Bien, il faut voir une chose, pour revenir un tout petit peu à ce qui a été dit, l'IRSN a été le premier organisme, à ma connaissance, à indiquer quel serait le coût d'un accident nucléaire s'il survenait en France. Bon, une estimation en ordre de grandeur, donc de l'ordre, pour un accident très grave, de l'ordre de 400 milliards, en tenant compte de tous les effets de l'accident, qui avait un objectif, c'est justement de bien mettre en exergue que, un, l'accident, bien sûr, reste possible, mais que justement, puisqu'on peut craindre les accidents, l'objectif est de tout faire, un, pour autant que possible les éviter, et deuxièmement, permettre au gouvernement, justement, de développer les outils qui permettraient de gérer une crise.
Oui, mais aujourd'hui, vous savez bien qu'on a un problème de financement.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le directeur financier de EDF a démissionné cette semaine en disant qu'il était contre la fabrication des EPR, donc un nouveau type de réacteur nucléaire, pour simplifier, en Angleterre. EDF est dans une situation économique compliquée, et aujourd'hui, il faut de l'argent pour entretenir ces centrales nucléaires. Or, si on n'a pas les moyens, ça veut dire qu'on fait quoi ? Des sacrifices, on choisit de réparer tel aspect et pas tel autre, on prend des risques ?
Non, le but ce n'est pas de prendre des risques.
Le but je comprends bien, mais
attendez, un point important, il faut quand même être bien clair, en matière de sûreté, qu'est-ce qu'il faut ? Un exploitant responsable, compétent et qui a des moyens.
Oui, alors par exemple, TEPCO a mis 5 ans à reconnaître, là, juste cette semaine, vous parlez d'exploitants, évidemment vous n'êtes pas TEPCO, mais enfin c'est un exemple d'exploitant nucléaire. TEPCO a mis 5 ans à reconnaître qu'en effet, il n'avait pas donné une information tout à fait juste sur l'état des réacteurs après la catastrophe, par exemple. Donc vous savez qu'il y a un problème de transparence avec le nucléaire, les gens sont inquiets.
À ma connaissance, TEPCO n'était pas un modèle d'exploitant nucléaire, il y avait eu différents scandales, même avant l'accident. Je pense que la situation...
On l'a dit après l'accident, parce que les relations entre EDF et TEPCO étaient excellente avant l'accident. Vous voyez, on refait l'histoire.
Non, mais c'est clair.
Comme pour Tchernobyl.
Oui, mais ça veut dire qu'on peut faire plus confiance à EDF en France qu'à TEPCO au Japon, Bernard Laponche ?
Écoutez, actuellement, il y a de très gros problèmes à l'intérieur d'EDF, qui se traduisent d'ailleurs par le fait que pour la première fois depuis 1945, l'ensemble des organisations syndicales, qui étaient plutôt assez maison d'une certaine façon, sont en contradiction et s'opposent à la politique de la direction, justement sur la construction des réacteurs EPR en Angleterre. Ça veut dire qu'en fait, il y a une situation dans laquelle EDF se trouve, d'une part, à vouloir poursuivre une politique, je dirais, étrangère ou internationale, extrêmement risquée du point de vue financier, économique et même technique, puisque les EPR n'ont pas encore montré qu'ils pouvaient fonctionner, puisqu'il y en a 4 qui sont en construction, qui ont du retard et qui doivent démarrer en 2018 ou je sais pas quand. Bon, donc s'embarquer dans cette affaire internationale est risqué de ces points de vue-là. Et d'autre part, il y a toute la question de l'entretien du parc actuel, les 58 réacteurs dont vous avez parlé, dont on n'est pas certain d'ailleurs du tout qu'ils soient capables à la fois techniquement et économiquement d'aller plus loin dans leur durée de fonctionnement. Donc on a une véritable interrogation. Au vu également des incidents qu'on voit un peu tous les jours, le fonctionnement du parc nucléaire n'est pas satisfaisant, ce que d'ailleurs a dit l'ASN récemment.
Alors il y a un problème de transparence aussi pour les salariés du nucléaire, ceux qui travaillent dans les centrales. Paul Jobin, vous avez étudié de près la situation des salariés du nucléaire. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet ?
Oui, c'est-à-dire ce que j'ai eu avant la catastrophe de Fukushima, où j'étais allé interroger des ouvriers de Fukushima, la centrale de Fukushima Daini, qui est plus au sud que celle d'Aichi. J'avais fait cette enquête en 2002, donc ça date un petit peu, mais ça me donne du recul. Et par rapport à tout ce qui a été dit sur les enjeux de radioprotection, les normes de 20 millisieverts, en effet, 20 millisieverts, c'était aussi le maximum annuel pour les ouvriers du nucléaire japonais avant la catastrophe. J'avais compté, recensé avec l'aide d'associations qui m'avaient aidé pour cette enquête, 14 cas d'ouvriers reconnus pour des maladies professionnelles, donc après avoir travaillé dans les centrales nucléaires. Et puis depuis la catastrophe, un seul a été reconnu. C'était en octobre dernier.
C'est un peu surprenant.
Oui, bon, alors ça, on pourrait en parler longtemps, mais pour faire simple, enfin, pour faire court, il se trouve que cet ouvrier a été exposé à une dose cumulée de 20 millisieverts. Il a 16 millisieverts pour son intervention à Fukushima Daiichi, donc en 2012-2013, et puis il a travaillé dans une autre centrale, une autre qui a été redémarrée dans la Kyushu, et donc un total de 20 millisieverts. Vous voyez, donc, et 20 millisieverts, ça a été suffisant pour déclencher une leucémie, et que cette leucémie soit reconnue par le Bureau du Travail, donc le ministère du Travail, et puis qui a fait cette annonce. Donc,
oui, c'est bien la preuve que cette dose de 20 millisieverts n'est quand même pas à prendre à la légère. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, on parle de l'avenir du nucléaire avec nos invités, mais juste avant, on fait une petite pause musicale.
Les autorités disent que c'est un lieu sûr, pourtant les mesures disent que c'est dangereux ici. Alors sur quoi ils se basent pour affirmer que c'est sûr? Nous ne sommes pas des spécialistes. Moi, je ne suis qu'une mère de famille et je n'y connais rien. Il y a beaucoup de parents qui ne reçoivent aucune information. Ça les angoisse.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil, soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore, on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour ITER et rien pour l'écologique. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappes fêlées pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ces mines d'uranium, contaminent les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe. Et peut-être en France, du 16e 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse, et des milliers de gens qui carburent au Levothyrox. 60 000 tonnes de déchets par an, on enterre, les outils, les machines irradiées, on enterre, les combinaisons, les gants pollués, on enterre, plus de place à la hague, alors dans l'aube, on enterre. Et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
Si je pouvais, je partirais très loin de la radioactivité. On m'a dit que je pourrais rester ici pendant 2 ans. Mais après, je ne saurais pas où construire une nouvelle maison tant que le problème de la centrale ne sera pas réglé. Je me fais beaucoup de soucis.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'avenir du nucléaire 5 ans après la catastrophe de Fukushima. Paul Jobin, à Taïwan par exemple, il y a des réacteurs. Comment la population qui suit de très près l'actualité au Japon réagit?
Oui, bah, Taïwan, on n'est pas très loin du Japon. C'est un des pays les plus proches avec la Corée. Et il se trouve que c'est une ancienne colonie japonaise et qui garde une certaine affection pour son ancien colon et une certaine admiration, une grande admiration pour son niveau de technologie. Alors c'était tout à fait surprenant et d'autant plus effrayant que l'une des trois centrales, enfin il y a trois centrales en activité, il y a une quatrième en préparation, et cette quatrième centrale avait acheté la technologie japonaise à Toshiba. Donc ça pour dire qu'on suit effectivement de très près ce qui se passe au Japon, et je crois que c'est un des rares pays avec l'Allemagne où la catastrophe de Fukushima a eu des conséquences sur le programme nucléaire en cours. Alors, la quatrième centrale, la nouvelle présidente qui a été élue en janvier, Tsai-ing-wen, a promis qu'elle ne la démarrerait pas, donc je pense que ce projet est enterré. Reste le problème des déchets nucléaires. Alors, il se trouve que les déchets, c'est aussi un des gros problèmes, je crois qu'on a pas parler encore pour la situation au Japon, mais Fukushima doit faire face à une accumulation de déchets considérables.
Oui, on dit qu'aujourd'hui, la décontamination de la zone représente des sacs de terre. Si on les accumule, c'est l'équivalent du mont Fuji.
ben voilà, une belle image, mais et tout ça part en partie dans la, surtout dans la mer. Hein, alors, avec, qu'est-ce que ça va donner là?
Oui, on a retrouvé de la radioactivité au large du Canada et des États-Unis. On ne vous entend pas très bien, malheureusement. La ligne n'est pas très bonne, mais on a bien compris donc qu'à Taïwan, il y avait encore des centrales nucléaires, mais que le gouvernement était en train de limiter le recours à cette énergie. Arnaud Vollerin, malgré la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais, lui, relance les centrales nucléaires.
Il relance, mais il est peut-être en train de tirer les premiers enseignements de Fukushima, puisque vraiment aujourd'hui, il y a un tribunal, le tribunal d'Otsu, qui vient d'arrêter la relance de deux réacteurs qui venaient d'être lancés en février dernier. Alors, c'est évidemment pas le gouvernement qui a décidé ça, c'est la justice japonaise, je crois savoir, j'espère qu'elle est indépendante. Mais ça va effectivement, l'arrêt de ces deux réacteurs va à l'encontre des projets du gouvernement qui veut effectivement relancer les centrales nucléaires. Shinzo Abe, depuis qu'ils sont retour en 2012, a fait campagne très clairement pour la relance des centrales. Donc, ceci étant, la nouvelle autorité de régulation du nucléaire au Japon, qui se veut plus indépendante que la précédente, a édicté des règles très strictes. On sait déjà aujourd'hui que sur le parc de 54 réacteurs dans le pays, il y en a déjà 11 qui ne redémarreront jamais, notamment les 6 de Fukushima, bien sûr. Ça va être un redémarrage, qui va être un redémarrage très lent, puisque les populations, la population japonaise est majoritairement opposée à ce redémarrage. Des élus, même locaux, commencent à parler un peu plus ouvertement de leur refus, de leur crainte de voir ce retour du nucléaire. Et on se rend compte, effectivement, avec des décisions de justice, avec la mobilisation d'une minorité de la population, mais une minorité très très agissante, on se rend compte effectivement que ça devient de plus en plus compliqué de relancer ces centrales, malgré la volonté très affichée, très affirmée du gouvernement japonais.
Oui, donc il y a quand même un décalage entre la volonté du gouvernement et la volonté des populations. Yuki Takahata, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, Bernard Lapont?
C'est exceptionnel qu'il y ait un décalage entre la population et les gouvernements.
Oui, vous voulez dire que ce n'est pas propre qu'au Japon, mais c'est l'objet d'une autre émission. Yuki Takahata, la population japonaise, Arnaud Vollerin le disait, est opposée massivement au nucléaire. Oui, maintenant, aujourd'hui, quelles sont les conséquences qu'il y a, pas uniquement dans la zone de Fukushima, mais plus généralement au niveau du Japon pour la population? Est-ce que, par exemple, il y a toujours des légumes, des fruits contaminés? Est-ce que l'eau est potable? Les gens se posent des questions.
Oui, alors, il y a des gens, une minorité, mais beaucoup de maires sont inquiétés pour la nourriture, effectivement. Et puis dans la région englobant le Tokyo à l'est, des légumes viennent quand même de l'est autour. Donc on n'est pas vraiment très sûr de.
Mais c'est-à-dire que si on va à Tokyo aujourd'hui, est-ce qu'on peut manger des légumes et des fruits sans s'inquiéter du taux de radioactivité? Arnaud Vollerin, vous en consommez-vous régulièrement?
Oui, moi je fais attention à l'étiquetage des légumes et des poissons,
origine.
Mais effectivement à leur origine, oui, parce que quand vous achetez des légumes ou du poisson ou même de la viande d'ailleurs, il y a toujours la provenance de la préfecture qui est indiquée en kanji et qui indique d'où vient le produit en question. Alors évidemment, il faut faire confiance. Et puis le poisson, c'est très compliqué de savoir s'il a été pêché au large d'Hokkaido ou au large de la centrale de Fukushima.
Et surtout tous les aliments conditionnés, parce qu'il y a énormément de choses qui sont conditionnées dans les supermarchés, des choses comme ça, et souvent il n'y a pas d'origine très très bien indiquée. Mais si vous pensez ça tous les jours, vous ne pouvez plus vivre. Donc là, au bout d'un moment, beaucoup de gens préfèrent ne plus y penser. Et là, j'étais au Japon en novembre dernier, il y a quand même une fatigue, et beaucoup de gens préfèrent ne plus y penser et parler, et c'est ça qui est grave.
On vit avec.
Parce que oui, c'est ça qui est. Et même à l'intérieur de Fukushima, des gens qui sont motivés, qui essayent de se protéger, ils ont beaucoup de mal parce qu'il y a un déni et même une sorte de omerta où ils peuvent pas parler des problèmes, des conséquences sanitaires. Par exemple, vous avez quand même déjà 116 cas opérés et avérés de cancer de la thyroïde parmi des enfants de Fukushima, ce qui est quand même beaucoup plus tôt qu'à Tchernobyl. Et puis quand même, c'est assez spectaculaire comme nombre. Et ça ne cesse cesse d'augmenter. Et si, absolument.
Thierry Charles n'est pas d'accord.
Écoutez, de 0 à 18 ans, normalement, l'incidence du cancer de la thyroïde est 1 pour 100 000. Il y en a pour 300 000 personnes, 116 cas déjà, 5 ans après. Donc, mais il n'y a pas que la cancer de la thyroïde, mais comme il n'y a pas d'examen systématique, alors qu'on a eu Tchernobyl, on aurait pu faire quand même des choses. Mais comme je dis, il y a vraiment le déni dès le début, et puis piloté par le lobby nucléaire international comme l'AIEA et CIPR qui fixent eux en disant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de neutralité dans ce domaine-là.
Alors le déni, c'est quelque chose, Bruno Charréron, qu'on observe aussi en France. Enfin, on peut se poser la question parce que la Suisse, à travers Genève, vient de porter plainte contre la vétusté de la centrale nucléaire du Bugey en France. L'Allemagne a fait la même démarche vis-à-vis de la centrale de Fessenheim. Ça date de quelques semaines là. Leur démarche repose sur des inquiétudes qui sont liées à la vétusté donc de ces centrales. Alors nos voisins s'inquiètent, mais pas les Français. Pourquoi est-ce que nous, en France, avec 58 réacteurs nucléaires, on ne s'inquiète pas de notre sécurité?
Alors moi, je veux revenir sur la question du déni et de la démocratie. C'est-à-dire que par rapport aux effets sanitaires des radiations, il y a tout un système de lobbying qui est coordonné principalement par l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui consiste à contrôler un certain nombre d'études sur l'impact des radiations pour minimiser les risques. Vous savez qu'il y a un accord entre l'AIEA et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait que les deux parties ne sont pas libres l'une par rapport à l'autre. Et en ce qui concerne le suivi sanitaire aujourd'hui des populations de la préfecture de Fukushima, suivi qui est effectué par l'Université médicale de Fukushima, elle a un accord déjà avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça veut dire que le lobby nucléaire a déjà bien mis la main sur les études sanitaires à Fukushima. Donc, nous n'aurons pas le bilan réel des conséquences sanitaires de la catastrophe de Fukushima parce que le lobby a intérêt, évidemment, à minimiser la réalité. Et pour ce qui concerne la population française, la situation de transparence a un tout petit peu évolué, mais on part de très loin, si on se souvient, des mensonges de Tchernobyl en 1986, quand le ministère de l'Agriculture, par un communiqué du 6 mai, nous a dit, en raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné par les retombées, ce qui est évidemment totalement faux. Dernier point rapidement sur la démocratie, je voudrais quand même rappeler que tout récemment, vient d'être adopté en Europe un règlement qui fixe les nouveaux niveaux de contamination acceptables des aliments en cas de catastrophe nucléaire. Et ces niveaux ont été fixés à des valeurs deux fois plus élevées que ce qui avait été fixé en 1986 au moment de Tchernobyl. La CRIRAD a porté plainte au niveau des autorités compétentes au niveau européen pour avoir la liste des experts Euratom qui ont contribué à ce qu'on fixe des normes aussi élevées. Parce qu'on est toujours dans ce problème d'opposition entre la démocratie et le nucléaire. On le voit encore en ce moment sur la façon dont sont fixées les normes en cas de nouvelle catastrophe.
Sachant qu'il y a un débat actuellement en France sur la prolongation ou non des centrales nucléaires françaises de 40 à 50 ans, ce qui peut là aussi inquiéter sur le niveau de sécurité. Thierry Charles, qu'est-ce que vous répondez sur cet enjeu justement de démocratie ? Qui est un enjeu essentiel.
Je crois qu'il est fondamental. D'ailleurs, la loi de 2006 qui a refondé finalement la sûreté nucléaire s'appelle notamment loi sur la transparence et la sécurité nucléaire. Et de ce point de vue-là, de nombreuses actions ont été mises en œuvre. Et je vous donne un exemple pour l'institut que je représente. La nouvelle loi qui est sortie sur la transition énergétique pour la croissance verte a notamment acté le fait que tous les avis de l'IRSN adressés à l'ASN sont rendus publics. Donc de ce point de vue-là, je dirais que la transparence, elle est en développement permanent. Et les citoyens ont de plus en plus accès à toutes les informations.
Donc Bernard Laponche, pas d'inquiétude.
Je suis très content. Alors, ce qui est dit est vrai, il y a eu un progrès. Un progrès par rapport à une époque quand même de fermeture totale. Mais c'est surtout la difficulté des choses, parce que dans la mesure où l'expertise indépendante est totalement, par définition, très faible, l'étude des rapports de l'IRSN, des travaux de l'ASN, etc., demandent une expertise considérable. Alors, sur les questions de radioactivité, il y a effectivement des associations comme la CRIRAD et la CRO qui font un travail remarquable et qui permettent de connaître des choses. Mais heureusement qu'ils sont là. Par contre, sur les questions de sûreté, c'est beaucoup plus faible, parce que ça demande des moyens que peu ont, et les experts qui peuvent travailler là-dessus se comptent sur les doigts de la main. Et donc, il faudrait qu'en fait, si on est sincère sur cette question de transparence, et là-dessus, j'accuse pas l'IRSN qui a fait de très gros efforts, il faudrait qu'il y ait une certaine possibilité que l'expertise indépendante puisse travailler et puisse s'exprimer. Parce que quand vous faites l'analyse actuellement de tous les arrêts fortuits des réacteurs nucléaires, de tous les incidents, on est extrêmement inquiet de la situation actuelle. Et la question du vieillissement ne peut pas être traitée à la légère. Et l'ASN et l'IRSN ont dit que ça sera au cas par cas. Et je pense, et normalement, un certain nombre de réacteurs vont être tout simplement arrêtés parce que il n'est pas question qu'ils aillent au-delà de 40 ans. Et donc c'est fondamental, si vous voulez. Et ce que vous disiez au début, ce que l'ASN demandait, d'avoir plus de moyens, il faut soutenir le fait que l'ASN ait plus de moyens, parce que on a une situation avec énormément de nucléaire, et cette question du vieillissement qui est de plus en plus importante, parce que les réacteurs vieillissent, ils sont maintenant autour de 40 ans, la majorité d'entre eux y arrivent. Et donc là, il faut être extrêmement sévère et extrêmement précis.
Alors, on voit bien qu'on pourrait prolonger cette émission très longuement parce que les sujets de débat sont extrêmement nombreux. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Donc, merci à tous d'y avoir participé, même si ce n'est pas très rassurant tout cela. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Je rappelle le titre de votre livre, Arnaud Vaudrin, s'appelle La Désolation. C'est publié aux éditions Grasset. Demain, nous donnerons la parole à des femmes engagées dans la protection de l'environnement. Et oui, cette semaine, c'était la journée du droit des femmes. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.
Carrefour de l'Europe.